Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Ce lundi, on parle de coming out avec Élodie Font, journaliste, documentariste et scénariste. Bonne écoute.
Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde.
Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires.
Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net/don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que tu préfères qu'on se tutoie ou qu'on se vouvoie plutôt ?
Eh bien écoute, tutoyons-nous.
C'est parfait. Alors, tu es journaliste, documentariste et scénariste. Aujourd'hui, tu es chargée de production chez Arte et tu produis en parallèle des émissions pour France Inter. En 2017, tu réalises un podcast natif qui s'intitule « Coming in », un terme pour signifier le fait de se dire à soi-même qu'on est homosexuel, en référence au « coming out » qui lui signifie le fait de le dire aux autres. En 2021, ce podcast est adapté en bande dessinée. Avec l'illustratrice Carole Morel, vous co-signez « Coming in », cette fois-ci une BD donc, publiée par Payot Graphique et Arte Éditions. Comment raconter le fait de s'accepter en tant que femme lesbienne ? On en parle donc aujourd'hui avec toi, Élodie Font, pour Radio Parleur. Et à Radio Parleur, on commence toujours nos entretiens en demandant à nos invités de nous raconter un souvenir de lutte. Quel serait donc celui que tu aimerais nous partager aujourd'hui ?
Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le premier, tout court, en fait. Et c'est en 2002. C'est ma première manifestation et c'est dans l'entre-deux-tours présidentiel, puisque ma première manifestation, à ce moment-là, j'ai 17 ans, me semble-t-il, et c'est contre la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et c'est fou parce que ça me semble tellement lointain. Je nous revois, on était si nombreux, tous les lycéens, dans les rues de Mayenne, puisque moi, à l'époque, j'étais au lycée à Mayenne, dans le département de la Mayenne. Et en fait, on était si nombreux et on était si motivés pour que ce soit juste une erreur, que ça ne se reproduise plus jamais. Et je suis assez horrifiée, je dois dire, de nous voir en 2021. Et c'est vrai que si tu me demandes de penser à une lutte, c'est celle-là, la première qui me vient, puisque depuis, j'essaie de lutter à ma petite échelle contre maintenant le Rassemblement National et puis contre tous ces dérivés, on va dire. Quelle tristesse de voir que, au contraire, que les idées du Front National ont complètement accaparé l'espace public. Donc voilà, c'est une lutte qu'il faut poursuivre.
C'est une lutte de longue haleine, ouais.
Après, si je te donne une lutte plus actuelle pour moi, enfin plus actuelle, plus dans laquelle en tout cas j'ai l'impression d'être plus présente, on va dire. Voilà, j'essaie d'être dans les manifestations de nous toutes, de dire mon engagement le plus possible contre les violences faites aux femmes, évidemment. Et ça, c'est une lutte très actuelle.
Nous toutes, donc une association féministe, pour le rappeler.
Oui.
Donc peut-être qu'on aura donc l'occasion, on aura l'occasion de reparler de la manière dont ce que tu dis que c'est quelque chose que tu continues de faire. Là, tu parles de manifestation. On va parler maintenant plus spécifiquement de ce que tu peux faire via tes productions. Donc en parlant de coming in et notamment du processus d'acceptation de ton homosexualité que tu décris dans ton récit. Dans la BD, ça se déroule entre principalement entre 2003, donc l'année de ta terminale, et 2011, le moment où tu dis que tu fais le deuil de ton hétérosexualité. Et donc, pour raconter un petit peu l'histoire aux personnes qui ne l'ont pas encore lu, mais qui le liront sûrement à la fin de cet entretien, tu racontes un cheminement en plusieurs étapes. Il y a notamment une étape qui, moi, m'a marquée, c'est cette bataille que tu te livres à toi-même et qui est illustrée dans la BD par un combat de boxe entre deux représentations de toi-même, une rouge et une bleue, qui se lancent des coups, qui se lancent des mots. Qu'on a les craintes de la première, qui a peur de finir seule, qui a peur de la honte que ça peut être pour sa famille de se déclarer homosexuelle, et la deuxième qui, elle, c'est la plus réaliste, on va dire, qui sait déjà amoureuse d'une fille. Je voulais te demander, comment est-ce que tu as vécu cette période-là de conflit ?
Je crois que j'étais vraiment épuisée. Ça a pris des années, hein, des années à lutter. Je ne sais pas si vous imaginez, je me levais le matin... Je pensais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es complètement folle, mais pourquoi, mais pour qui, mais. Enfin, c'était sans fin, c'est-à-dire que c'était c'est comme si vous étiez en train de vous engueuler toute la journée. Donc c'est insupportable, en fait, à vivre. Puis c'est pas que de l'engueulade, c'est une angoisse qui monte, qui est très forte. Et du coup, qui a déjà vécu un épisode d'angoisse forte, c'est que on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, quoi. Enfin, qu'on va finir asphyxié par l'angoisse. J'avais d'ailleurs une sensation même d'apnée. Et en fait, quand le combat se termine, alors en vrai, il s'est pas terminé comme ça dans un claquement de doigts. Ça a pris encore des semaines derrière, des mois même. Mais je dirais que le moment où je me suis dit pour la première fois, ok, il lui dit, il va falloir que tu y ailles et que tu embrasses une femme. La femme que j'avais en tête depuis un petit moment déjà. J'étais dans un état de fatigue assez extrême, en fait. Voilà, c'était très violent comme passage. Et je pense que ça peut s'appliquer finalement à plein de situations de la vie. Dans les gens qui lisent Coming In, il y en a qui me disent que ils se sont reconnus dans ce passage, alors même qu'ils ne sont pas homosexuels. En fait, je pense que voilà, d'être dans une lutte comme ça, féroce contre soi, ça peut arriver à plein de moments de la vie, mais en effet, ressentir du rejet pour ce qu'on est, il y a un rejet quand même très fort, c'est... ça prend de la place, on va dire.
Ce rejet, finalement, parce que tu dis, oui, ça a mis du temps jusqu'à ce que j'embrasse une fille. Donc là, on pourrait se dire, je ne sais pas, dans un magnifique film romantique, on pourrait dire, bah, ça y est, c'est le moment d'évidence. Mais en fait, à ce moment-là, malgré le fait que ça semble sur le moment une évidence, dans ton récit en BD, tu dis, comme si mon corps n'avait fait qu'attendre que j'accepte qui je suis. Mais malgré ça, à ce moment-là, tu dis, mais en fait, je ne me sens pas lesbienne, je n'aime pas ce mot. Est-ce que tu sais pourquoi, à ce moment-là, c'était toujours pas une évidence, malgré ce baiser et ce qui a suivi ?
Je pense que c'est... Alors, il y a plein de raisons. C'est vrai qu'au début, c'était plus facile pour moi de me dire, c'est une seule fille, je vous arrête tout de suite, je suis absolument pas homosexuelle. Je pense que c'était plus facile aussi pour moi, avoir l'impression de tomber dans le vide. J'avais moins peur, en fait, en me disant que c'était juste cette fille-là et que ça n'allait peut-être pas être le cas avec d'autres femmes derrière. Je veux dire, ça me rassurait. Il y avait ça, c'est sûr que ça me rassurait. Et puis, je pense qu'il y avait aussi beaucoup cette idée que j'arrivais pas du tout à me définir comme lesbienne, parce que les images que moi j'avais de l'homosexualité féminine, elles correspondaient pas du tout à qui j'étais. C'était une image pleine de clichés, hein, un peu absurde parfois, mais c'était l'image qui était véhiculée dans le peu de médias qui parlaient d'homosexualité féminine. C'est-à-dire quand on en voyait, c'était au moment de la Pride, par exemple, et du coup, on voyait des femmes, je sais pas, qui avaient les cheveux courts, un peu butch, c'est comme ça qu'on dit, avec une manière de se fringuer aussi qui correspondait à une attitude un peu masculine, même si j'aime pas dire ça parce que je trouve ça toujours un peu ridicule de dire ce qui est masculin, ce qui est féminin, mais en fait, moi j'avais du mal à me reconnaître comme lesbienne parce que la seule image que j'avais donc de l'homosexualité féminine, c'était elle. Mais moi à l'époque, je me disais, mais du coup, comme je leur ressemble pas, je peux pas être lesbienne en fait, je peux pas correspondre en fait. Et je crois que du coup, de ne pas avoir de modèle, de ne pas avoir de représentation qui corresponde à qui j'étais, qui je suis, c'est-à-dire ni masculine ni féminine, une espèce de ventre mou entre les deux, mais en fait qui correspond quand même à beaucoup de gens, j'avais vraiment voilà, du mal à me définir. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que quand, un petit moment plus tard quand même, hein, je me dis bon, ok, ça y est, j'accepte qui je suis, et en l'occurrence, je suis lesbienne et je suis homosexuelle. C'est drôle parce que, par exemple, c'est passé chez moi par une transformation totale de ma manière de m'habiller. Et en fait, ça peut paraître comme un petit détail, mais je crois vraiment que j'avais besoin, moi, de trouver ma manière à moi d'être homosexuelle et de pouvoir me définir comme ça.
On voit dans la BD qu'on te voit en train d'aller t'acheter des habits, et justement à la fois des robes très féminines, entre guillemets, et des tenues qui seraient plutôt celles qu'on assimilerait à une personne plus butch, et où du coup tu te dis, bah, tout d'un coup, je peux assumer le fait de mettre les deux, en fait, c'est moi-même qui décide.
Mm-mm. Les deux.
Du coup, tu parles là de ce moment où tu finis par l'assumer, par te réussir à te dire toi-même lesbienne. Et avant cela, en fait, dans ton cheminement qui est raconté en BD, tu passes par une période très sombre qui est illustrée par des pages obscures où ton personnage il est en permanence accompagné d'une sorte de créature monstrueuse qui prend la forme du mot suicide. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui met fin à cette période ? Parce que l'histoire est assez... En tout cas, dans le récit, elle est assez magique et incroyable.
Et elle est comme ça dans la vie, pour le coup. Je n'ai pas romancé ce passage-là. En fait, effectivement, ça fait 6 mois à ce moment-là que je pense nuit et jour, en permanence, au mot suicide. Donc, je suis dans un état d'anxiété extrêmement élevé. J'ai vraiment l'impression que, en fait, j'ai l'impression que je suis tellement anxieuse que je peux, sur un coup, sans m'en rendre compte presque, que je peux me balancer d'un pont. Enfin, j'ai l'impression d'être tellement fébrile que j'ai la sensation que je peux plus du tout me maîtriser. Donc, c'est très anxiogène, évidemment. Et ça prend 6 mois. Et comme je le dis dans la BD, 6 mois, c'est extrêmement long. Hein. Quand on est avec ce genre de pensée. Donc c'est vraiment un épisode de ma vie. Tu disais qu'il est sombre dans la BD, c'est vrai qu'il est très sombre aussi dans ma vie. Enfin, j'en ai un souvenir terrible. Et au bout de 6 mois, parce que j'ai mis du temps à en parler autour de moi, j'avais un peu honte en fait. J'étais un peu gênée. J'étais d'autant plus gênée que j'avais l'impression que les gens n'allaient pas comprendre en fait que j'avais des pensées suicidaires, mais que j'avais pas l'impression que j'avais envie d'en arrêter avec la vie pour autant. Enfin, c'était très étrange comme sensation. Et du coup, évidemment, c'était très étrange à raconter. Et j'ai fini par craquer avec 3-4 copines différentes. Et puis l'une d'elles, qui est vraiment une de mes amies, que l'on voit à plusieurs reprises dans la bande dessinée, parce que c'est une de mes meilleures amies. Et il se trouve, donc elle s'appelle Fanny, et il se trouve que Fanny, dans une conversation, me dit « Tu sais, j'y ai réfléchi, et je pense que tu dois faire le deuil de ton hétérosexualité. » Et quand elle dit ça, 2 jours avant, j'ai vu mon psy, 3 jours avant, j'ai vu une autre copine qui m'a un peu dit la même chose, mais pas avec ces mots-là. Mais c'était vraiment la même idée. Et le psy aussi, c'était vraiment la même idée. Et je pense que c'est finalement d'entendre une troisième fois dans la même semaine cette idée qu'il fallait faire un deuil, qui d'un coup me prend aux tripes. Et en fait, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment une sensation. Je sens physiquement que ce mot, le mot suicide, se... Comment je pourrais vous dire ça ? Se dissout, quoi. Et d'un coup, il glisse. En fait, il part. Je ressens encore la sensation. Vous voyez, c'est, ça part de la tête, ça va jusqu'au pied, ça part, en fait. Voilà, c'est complètement dingue. Et je sens tout de suite que ça part. Évidemment, j'ai eu peur encore pendant plusieurs semaines derrière. Hein. Mais je sens que j'ai fait le plus gros. Et donc, évidemment, comme je sens que c'est ce moment-là, c'est au moment où elle parle de deuil, de l'hétérosexualité, je me dis, c'est ça, ok, c'est ça, alors. Et donc, je creuse cette idée-là. Et ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que j'avais projeté ma vie dans une vie hétérosexuelle. Donc, j'avais projeté ma vie avec des enfants, avec un mec. En fait, j'avais projeté ma vie dans la normalité. Et à un moment, il a fallu que je comprenne que c'était pas que j'avais envie de me tuer. Mais par contre, mon corps me disait, bon, là, à un moment, va falloir faire le deuil d'une partie de toi, en tout cas. Et il faudrait pas falloir lui dire au revoir, adieu, et puis accepter que la vie va être très jolie sans. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi à me dire ça, alors la vie a été plus facile derrière.
Mais justement, c'est ce que je trouve à la fois intéressant dans tes récits et ce qui à la fois pour moi surprend d'une certaine manière, c'est que tu te centres beaucoup sur l'acceptation de soi, le fait, enfin c'est tout l'objet du coming in, c'est le fait vraiment de s'accepter soi-même et de porter peut-être un regard bienveillante sur ce qu'on est vraiment, mais finalement le poids des autres ou de la société, même s'il apparaît quelquefois, il y a notamment des petites allusions à des les petites blagues homophobes qu'on entend dans des apéros avec des amis ou ce genre de choses, je trouve que le poids de la société, justement les représentations que la société nous renvoie et qui font qu'on a du mal à se sortir de ces représentations, elles ne sont pas forcément très présentes dans tes récits. Je me demandais pourquoi.
Bon, déjà parce que moi, je ne me sens pas... C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des gens qui savent extrêmement bien raconter ça, qui travaillent dessus, qui sont chercheurs, psychologues, que sais-je, mais en tout cas qui ont vraiment des réflexions passionnantes sur ce sujet-là. Et je ne crois pas que moi, à ma petite échelle, j'ai vraiment une réflexion qui a quelque chose d'autre à amener que juste de dire la société est quand même un peu difficile à supporter parfois. Mais donc, déjà, je pense que c'est une question de légitimité. Je me sentais pas forcément légitime pour ça. Il y a aussi que je pense que si on attend des autres qu'ils évoluent pour qu'on se sente mieux, ça va prendre du temps. Donc je pense qu'on a plus de chance aussi si on passe par l'acceptation de soi sans attendre l'acceptation des autres. On a plus de chance dans le sens... je pense qu'on s'en sort plus vite, quoi. et donc, voilà. Après, c'est aussi que moi, je pars de mon récit. J'ai pas de prétention de faire des généralités, par exemple. Moi, je raconte juste un récit et à travers celui-là, peut-être... que certaines autres personnes peuvent se reconnaître, mais je me dis pas que j'invente l'eau chaude, quoi. Je me dis juste que peut-être ça peut faire du bien ce que je raconte. Donc après sur la société, si quelque part j'en parle, parce que j'en parle quand même à travers le fait que par exemple d'avoir mis 6 mois à penser au suicide à 24 avant de réussir à me dépêtre un peu de ce mot, c'est quand même que la société est d'une violence folle, en fait, quand on en est rendu à devoir faire ça pour se sentir mieux.
Je me demandais, en fait, si peut-être tu l'avais moins ressenti, parce qu'en lisant ce récit, moi, ça m'a fait penser à un livre d'une sociologue et anthropologue, Natacha Chetkuti, tu connais peut-être, qui s'appelle « Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité et représentation de soi », et qui, dans lequel elle parle, elle analyse en fait le processus par lequel passent les femmes avant d'en arriver à se dire lesbienne, ce qui est un processus qui est beaucoup plus long et plus complexe que pour les hommes gays. Et je me demandais ce que tu pensais si tu connaissais cette analyse, est-ce que tu pensais de cette analyse.
Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu il y a un petit moment, mais je l'ai lu. Oui, je pense que c'est compliqué de se dire lesbienne parce que c'est invisible, en fait. parce que être lesbienne, c'est très invisibilisé. Rien que le mot d'ailleurs. Dans le podcast, il y a quelques années, je disais que j'aimais pas le mot lesbienne et que je le trouvais moche. Et puis, en fait, en lisant de nombreux ouvrages, je me suis rendu compte que c'était politique, en fait. C'est-à-dire qu'on était très nombreuses, bizarrement, à ne pas aimer le mot lesbienne. C'est quand même fascinant qu'on soit aussi nombreuses à ne pas l'aimer. Et donc, je me suis rendu compte que c'était aussi parce que la représentation que l'on en avait était biaisée, qu'il y avait plein d'injonctions de la société à ne pas aimer ce mot-là. Donc, c'était politique aussi de le soutenir. Donc, évidemment que c'est assez compliqué de se définir en tant que lesbienne, alors même qu'elles sont invisibles dans l'espace public. Et puis qu'il y a toujours ce côté un peu, moi qui m'agace beaucoup, deux femmes ensemble. C'est comme si c'était vraiment deux copines qui se faisaient des petites caresses, des massages un peu appuyés, quoi. Et je trouve que c'est insupportable, en fait. Je sais pas, c'est nier le fait que, par exemple, il y a une sexualité entre les femmes qui n'est pas une sexualité vouée à être observée par des hommes qui, enfin, arrivent au bout d'un quart d'heure pour amener une sexualité à ces deux pauvres femmes. Oui, donc, je pense que aussi, je fais référence au porno. Qui a pas mal abîmé le mot, je pense, lesbienne. Mais je pense que quand même, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui, j'espère, en tout cas, de se dire lesbienne.
C'est justement là où je voulais en venir maintenant. Parce qu'à la fin de ta BD, à la fin de votre BD, puisque il y a aussi Carole Morel, donc l'illustratrice qui la co-signe, à la fin de la BD, justement, tu te demandes est-ce que ça vaut toujours le coup de raconter l'acceptation de l'homosexualité en 2021? Et tu dis que tu te posais déjà la question en 2017. Du coup, je voulais te demander est-ce que vraiment pour toi ça te semble plus facile aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui c'est plus facile de s'assumer en tant que lesbienne que en 2017 ou en 2011?
Ouais, alors je crois pas que ce soit plus facile de s'assumer ou de s'accepter, parce que s'assumer, je trouve ça un peu violent, mais de s'accepter, je crois pas que ce soit plus facile, mais c'est, en tout cas, il y a beaucoup plus de représentation. C'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup plus de femmes et d'hommes qui disent dans les médias, qui disent publiquement qu'ils sont homosexuels. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même plus d'histoire aussi. Il y a plus d'histoire dans les films, il y a plus d'histoire dans les bouquins. Enfin, après, quand je dis il y en a plus, je veux dire, les femmes lesbiennes connues, il y en a 10, quoi. C'est déjà bien, parce que moi, il y en avait 2. Mais ça reste...
C'était qui?
Moi, à l'époque, il y avait Amélie Mauresmo qui a fait son coming out quand j'étais au collège. Et dis donc, ça ne donnait pas très envie de le faire, son coming out. La pauvre, elle a vraiment essuyé les plâtres. Et puis, il y avait Catherine Lara, quoi. Donc, moi, Catherine Lara, quand j'avais 15 ans, je sais pas, ça me semblait quand même un peu loin, quoi. Ça, c'est sûr que ça a changé, pour le coup. Après, voilà, ça reste quand même assez minime. Et d'ailleurs, je vois bien dans l'accueil qui est fait à Coming In que on a besoin, on a envie d'entendre des histoires. Et de deux, je crois que le fait d'avoir des représentations, c'est une chose, mais le fait de s'accepter, ça a l'air de prendre toujours du temps, parce que je reçois des centaines de messages. Donc, sinon, je n'en recevrais pas autant, je pense.
Mais c'est des centaines de messages de personnes qui te remercient de ce que tu as fait, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était déjà le cas après le podcast. Donc, en 2017, je reçois des centaines de messages de gens qui me disent en fait, c'est un peu mon histoire. Donc, merci de la raconter. Donc, et surtout, qui me disent à quel point ça leur fait du bien. Et on dit beaucoup que les jeunes générations, aujourd'hui, les gens qui ont 15 ans, c'est hyper facile, pas de problème pour eux. Moi, je suis assez certaine que ça reste quand même quelque chose de complexe. Alors, je parle, et comme vous pouvez l'entendre, j'ai mon petit bébé à côté. Voilà, ce sont les aléas de faire une interview quand on est en congé mat.
Ouais, justement, peut-être pour rebondir sur ce contexte particulier d'entretien, puisqu'on fait actuellement cet entretien à distance. Donc, tu es chez toi et moi, je suis dans les locaux de Radio Parleur. Donc, je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de faire cet entretien alors que tu es en congé maternité. Et justement, ce congé maternité, en fait, tu parlais déjà du désir d'enfant dans ton podcast en 2017. Et je me demandais, parce que là, on parle de la facilité, ouais, entre guillemets, hein, de s'accepter en tant que femme lesbienne aujourd'hui. Est-ce que le fait d'avoir un enfant en tant que couple de femmes, qui est encore une autre étape, est-ce que ça a été quelque chose de facile ou pas?
Ouais, c'est ma lutte à moi, ça. Ça, c'est une envie qui m'a pas quittée, en fait, que j'avais quand je pensais que j'étais hétéro, qui a été ma plus grande peur quand j'ai compris que j'étais homo. Je me suis dit, mais oh, ça veut dire que j'aurais jamais d'enfant. C'était vraiment une grande douleur pour moi. Et j'ai fait des tentatives de PMA avec mon ex-femme qui n'ont pas fonctionné. Ça a été un long chemin à ce moment-là. Et il se trouve que j'ai, voilà, moi, j'ai déjà 35 ans. Enfin, je vais avoir 36 là dans quelques semaines. Donc, j'avais vraiment la sensation que le temps pressait un peu. Et en fait, ça a été assez rapide cette fois-là pour avoir ce petit bonhomme-là. Mais la grossesse a été quand même assez complexe. Donc, ça a quand même été un sacré parcours. Mais ça a été plus facile quand même que ça ne l'avait été il y a quelques années. Aussi parce que j'ai pas du tout choisi la même manière de faire. Il se trouve que j'ai eu la chance de le faire dans l'illégalité, mais en France. Donc, ça a tout changé par rapport à il y a quelques années où j'avais essayé de le faire en Belgique. Et je crois qu'on ne dit pas assez à quel point ça joue d'aller dans un autre pays qui n'est pas le sien, de faire un trajet qui est long. Ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, c'est une pression monumentale.
Vous ne vous sentiez pas d'attendre, parce que la loi sur la PMA a été votée au début de l'été. C'était trop tard ou c'était pas...
Bah non, parce que du coup, moi, j'ai 36, ma compagne, c'est pareil. Là, je vois que les couples qui commencent à rentrer dans le processus, là, on leur dit qu'il y a à peu près un an et demi d'attente, plus les 9 mois derrière. Et encore, il faut que ça marche du premier coup. Donc moi, je me disais, ah non, je vais trop flipper, en fait. Je vais trop flipper. Et puis surtout, je dois dire que je commençais à désespérer de cette loi. Donc, je me suis dit, tu peux pas attendre que des sénateurs de 85 ans blancs et hétéros te donnent leur feu vert, en fait. C'est pas possible. Donc, il faut que tu prennes ta vie en main avant, parce que sinon, c'est trop... C'est trop anxiogène. Et puis, comme ça faisait longtemps que je travaillais, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la PMA, etc., donc je savais mieux qu'il y a quelques années, comment faire aussi.
Pour en revenir peut-être à ton récit, j'aimerais beaucoup qu'on parle maintenant de la mise en récit, donc du fait de raconter toutes ces expériences. Et je me demandais, parce que à plusieurs reprises, que ce soit dans le podcast ou dans la BD, tu parles du besoin de dire, de partager, que ce soit le fait de sortir avec une fille ou le fait d'être lesbienne. Oui. Et il y a notamment un moment très beau dans la BD où on voit deux pages qui vraiment littéralement débordent de couleurs hyper flash. Et sur lesquels on peut lire en lettres capitales blanches « Je suis homo », comme si c'était écrit sur un mur. Enfin, c'est très beau, en tout cas la manière dont c'est représenté. Et je me demandais si pour toi, dire ça avait fait partie de ton processus d'acceptation.
Ah, totalement. Totalement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas toute seule. Parce que quand on dit... on a la possibilité de recevoir en retour des gens qui disent aussi. Et c'est très agréable, en fait. C'est une grande force, soudain, de se rendre compte qu'on est pas mal. Et oui, ça a fait partie du processus, parce que, justement, j'ai beaucoup souffert, moi, du manque de représentation. Donc, je pense que plus on dit, et plus on fait exister cette réalité-là. C'est comme le terme « coming in ». En vrai, il est né dans un échange à Arte Radio où on cherchait le titre. Et d'un coup, Coming In est venu. Et, euh, et on, Et on se disait, on s'est dit tout de suite, tiens, oui, ça colle exactement à ce que tu veux raconter. Alors après, je l'ai pas inventé. Hein. J'ai vu qu'il avait été déjà utilisé à droite à gauche, mais enfin très peu. Mais par exemple, de dire le mot coming in, en fait, j'ai vu là récemment que dans un article du Monde, il parle de ça. Il parle du coming in, de l'acceptation de soi. Et je me suis dit, ah mais c'est génial parce qu'en fait, tant qu'il y a pas de mots, ça n'existe pas. Donc tant qu'il n'y a pas de mots, on va considérer par exemple que pour les homosexuels, il y a le moment du coming out. Et puis on ne parle pas d'un processus qui est beaucoup plus long que ça. Et justement de mettre un mot par exemple, bah, c'est dire si ça existe, ce que tu ressens, tu n'es pas la seule à le ressentir ou tu n'es pas le seul à le ressentir. Et ça vaut le coup d'être nommé en fait.
Et du coup là on parle de deux moments où tu te dis, en fait il y a le moment où tu le dis dans la vie, il y a le moment ensuite où tu le dis dans un podcast, puis même un troisième moment où tu le dis dans une BD. Je me demandais comment ça s'était passé, cette mise en récit, cette construction d'un récit, en sachant que dans un contexte où tu te décris en train de d'écrire depuis très petite, d'écrire un journal. Après, je ne sais pas si tu l'as ressenti en tant que tel, mais les récits, notamment de femmes sur des expériences très intimes, c'est des récits qui ont longtemps été dénigrés dans la littérature dite classique. Et je me demandais si ça t'avait influencé dans la construction de ton récit, si ça avait été un frein ou pas, d'ailleurs.
Non, parce que en fait, tout s'est fait d'une manière un peu surprenante pour moi, parce que tout est parti du podcast. Évidemment, et le podcast, je l'ai écrit en n'imaginant pas une seule seconde qu'il allait avoir du succès. Mais alors vraiment, pas du tout. Donc je l'ai écrit parce que c'est né d'une conversation avec le directeur d'Arte Radio, et en discutant de fil en aiguille, je suis arrivée à lui raconter ma vie. Et puis en fait, ça s'est fait d'une manière extrêmement naturelle, sans que je réfléchisse du tout à l'impact que ça allait avoir. Et c'est en fait, c'est une fois que le podcast est sorti, qu'il a eu beaucoup d'écho, que ensuite je pouvais plus faire autrement que de savoir qu'il y avait tous ces gens qui se reconnaissaient dans ce récit-là. Et en fait, ça a vraiment changé ma perception, parce que à l'origine, vraiment, moi, j'ai écrit ça d'une manière extrêmement naïve et un peu candide. Et là, la BD, je l'ai faite plusieurs années plus tard parce que je voulais que ça. Au début, j'avais l'impression d'avoir déjà tout dit dans le podcast, et je suis contente d'avoir attendu d'ailleurs, parce que je pense que je suis plus heureuse du résultat de ce que je peux en dire aujourd'hui que ce que je pouvais en dire il y a 5 ans. Et voilà, je suis contente d'avoir pris mon temps. J'avais un peu peur parce que je me disais, est-ce que la BD va être à la hauteur des attentes qu'il y avait autour du podcast ? Mais pour l'instant, les gens ont l'air plutôt contents, donc moi aussi.
Et comment ça s'est passé cette adaptation en BD ? Parce qu'on a l'impression en tout cas moi j'ai eu l'impression que dans cette BD on prenait davantage le temps de te rencontrer en tant que personnage avec des épisodes supplémentaires par rapport au podcast. Et du coup ça donne l'impression d'une histoire qui est plus étoffée, plus complète, plus complexe. Est-ce que ça a été le fruit d'un travail collaboratif avec l'illustratrice Carole Morel ?
Non, c'est vraiment moi qui ai tout réécrit. J'ai pas réécouté le podcast en fait. Je me suis dit ok, comment je raconte cette histoire maintenant ? Et voilà, Coming In en podcast, je l'ai écrit d'une certaine manière, c'était en 2016, à la fin de l'année en 2016. Comment là, j'avais envie de le raconter, et j'ai essayé d'imaginer tout un tas de mises en scène, on va dire. Et ensuite, Carole s'est approprié le texte et on a beaucoup discuté de certains dessins. Il y a des dessins qui étaient extrêmement naturels, d'autres moins. Mais le texte, tout ce que j'ai pu rajouter, ça vient de moi.
Et comment ça s'est passé justement la collaboration avec une illustratrice ? C'est quelque chose que tu avais déjà fait ou...
En fait, ça m'était déjà arrivé, mais dans les autres cas, ce qui s'était passé, c'est que on m'avait imposé, entre guillemets, c'est pas très gentil dit comme ça, mais bon, c'était le cas, on m'avait imposé de travailler avec tel ou tel dessinateur. Il se trouve que là, comme c'était mon histoire, j'avais quand même envie de choisir. Donc, on avait discuté de ça avec Payot, qui est donc l'éditeur, et aussi avec Arte Édition. Et en fait, c'est très drôle, mais tout de suite, moi, j'ai imaginé que ce serait Carole. Parce que je lisais ses ouvrages. Il se trouve que moi, j'adore la bande dessinée et que j'ai plusieurs de ses albums chez moi. Et que je saurais pas trop comment vous expliquer, mais elle me parle. En fait, son dessin me parle. Et du coup, c'est moi qui l'ai contactée en lui disant que j'avais envie de... de lui expliquer mon projet, que c'était peut-être un peu bizarre de lui demander ça, parce que bon, c'est quand même étrange, c'était moi qui écrivais alors même que c'était mon histoire. Enfin, j'avais peur qu'elle se dise waouh, la fille est quand même très très centrée sur elle. Et il se trouve qu'elle avait écouté le podcast, qu'elle s'y était reconnue, parce que je le savais pas. Elle le dit publiquement, donc je la out pas, mais elle il se trouve que Carole aussi est lesbienne, et donc elle s'était reconnue dans le podcast, et du coup on a commencé à discuter, donc on a fait des essais, quelques-uns avec d'autres, et en fait moi dans ma tête c'était forcément elle, quoi. Et c'est très précieux en fait quand vous dites voilà, j'imagine tel univers, j'imagine ça comme page et tout, et puis que ce qu'elle vous propose c'est ce que vous avez imaginé en 10 fois mieux, quoi.
Moi, j'ai trouvé en la lisant, alors j'avais beaucoup aimé le podcast, mais j'ai trouvé par contre que les dessins étaient très beaux et que ça permettait d'illustrer des moments qui seraient peut-être difficiles de rendre en podcast. Et notamment, ce moment-là d'épiphanie, je suis homo avec toutes ces couleurs, j'ai trouvé que c'était une très belle manière de le représenter. Ou encore la première relation sexuelle avec une fille qui est représentée et qui est dessinée dans des teintes pastel avec un trait hyper souple. Enfin, c'est une manière de représenter un moment peut-être qui n'aurait pas pu se faire dans un podcast radio, en fait. Ça, j'ai trouvé ça très beau, quoi.
Oui, je pense que ça apporte d'autres choses, en fait. Je pense que ça apporte d'autres choses. Après, moi, j'ai adoré aussi travailler avec Arnaud Forest, qui était le réalisateur du podcast. Et j'avais trouvé qu'il avait fait un travail extraordinaire sur la musique, sur la musicalité aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça raconte des choses différentes. Je vois que, par exemple, avec le podcast, pour moi, le média sonore, j'imagine que si tu fais de la radio, tu vas être d'accord. Pour moi, c'est un média qui résonne, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un te raconte une histoire, c'est hyper intime, quoi. Je sais pas comment dire. T'as l'impression que la personne, elle te parle dans ton oreille, comme ça. Du coup, ça te transperce. Voilà. Il y a un truc qui, moi, je trouve que c'est vraiment un média du corps. La radio. Et il se trouve que la BD, pour moi, c'est plus un arrêt sur image. C'est-à-dire, ça peut plus t'accompagner dans le sens où tu peux relire une page. Ah, tu la relis encore. Ah, tiens, c'est ce moment-là précis qui te fait quelque chose. Et donc, moi, je trouve qu'il y a des passages dans la bande dessinée qui m'émeuvent, alors que je pense que ça aurait été difficile de les rendre forts en son, et inversement.
Est-ce que c'est prévu qu'il y ait une suite, par exemple, sous forme de vidéo ?
Ouais, alors je crois qu'on va quand même s'arrêter là, sur cette partie de l'histoire, en tout cas. Après, c'est rigolo parce qu'on me demande beaucoup, et notamment, on a la chance avec Carole de faire un peu le tour des librairies, là, en ce moment, pour la dédicacer. Et on nous demande souvent si on va faire la suite, plutôt. Et évidemment, donc, de parler d'homoparentalité. Et je pense que peut-être un jour, on fera quelque chose.
Pour finir, dans les entretiens de Radio Parleur, on demande aux personnes interviewées de finir sur une musique. Et je ferai bien le lien avec ton récit, parce que dans ta BD, de fait, en tout cas, d'un point de vue musical, il y a régulièrement de la musique, finalement, dans cette BD. Il y a même une playlist à la fin de la BD, ça n'arrive pas tout le temps. Est-ce que tu voudrais nous partager une musique pour finir cet entretien, pour le conclure ?
Il y a une musique qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée toutes ces dernières années. Et je trouve que elle illustre la fête et en même temps la force. Et moi, quand je l'écoute, je me sens vraiment vivante, et elle a vraiment un lien avec mon histoire. Alors, pardon, j'ai un accent anglais déplorable. C'est le titre, c'est Small Town Boy, et l'interprète, c'est Bronski Beat. Moi, elle me transporte littéralement, quoi. Et je me dis qu'elle va bien avec mon cheminement.
Du coup, pour conclure, donc merci beaucoup Élodie, on va finir sur cette musique. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de répondre à cet entretien. Au revoir et bon après-midi.
Bah merci, merci à toi. Non, merci à toi, merci de laisser autant de temps pour raconter plein de choses. C'est vrai que c'est toujours, je trouve, hyper agréable d'avoir le temps de raconter les choses. Donc merci.
Radio Parleur lance
la lettre des luttes.
La lettre des luttes
de Radio Parleur.
Tu veux rejoindre une lutte près de chez toi et tu ne sais pas où, quand et comment faire?
Jamais la bataille politique n'avait pris tant de formes différentes. Alors,
toutes les semaines, dans ta boîte mail, pars à la rencontre de celles et ceux qui se battent et qui bâtissent des lendemains qui chantent.
C'est simple et gratuit. Abonne-toi sur
radioparleur.net/lettre des luttes.
Radio Parleur.
Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous venez d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Aujourd'hui, vous avez pu écouter Élodie Font nous parler du coming out. Vous pouvez dès maintenant retrouver le podcast sur le site jetfm.fr ainsi que sur celui de Radio Parleur et diverses plateformes d'écoute. À suivre dans l'immédiat, Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.